Il y a autre chose que la plupart de nous ont de la difficulté à accepter. C'est l'idée de mourir. Je vais profiter du sujet de la consultation d'aujourd'hui pour en dire quelques mots. Comment vous sentez-vous à l'idée que vous mourrez un jour? Je n'ai pas l'impression, répond aussitôt Anna, que j'ai peur de mourir. J'ai plus peur de vieillir et surtout d'être malade et d'être à la charge de quelqu'un d'autre. L'idée de mourir quand je serai vieille ne me dérange pas, mais je ne voudrais pas mourir maintenant, alors que ma fille est si jeune. J'aurais peur qu'elle vive cela très mal. Aussi, je dois avouer que si j'apprenais que Mario devait mourir d'ici quelques mois, ça me ferait vraiment peur. Je suis contente que tu nous poses cette question, Lise, car je m'aperçois que ce n'est pas un sujet dont on parle, ni chez nous, ni ailleurs. On dirait que c'est un sujet tabou. Je ne sais même pas si Mario a peur de mourir. Elle se tourne vers lui, émue. Elle attend qu'il prenne la parole. Il hésite quelques instants, se tord les mains nerveusement et finit par dire « Oui, j'ai peur de la mort. » Je n'osais pas en parler, mais j'y ai pensé très souvent depuis quelques mois. Est-ce que ça se peut que ce soit parce que Sandra a 14 ans et que j'avais 14 ans quand mon papa est décédé? Et maintenant, avec le suicide de mon neveu, ça ne m'aide pas du tout. Moi aussi, je ne voudrais pas mourir maintenant, car je suis trop jeune et je trouverais cela très injuste de partir alors que je viens de décider de me prendre en main et que j'envisage l'avenir sous un meilleur jour. Supposons que tu apprennes qu'il te reste 3 mois à vivre. Qu'est-ce qui te ferait le plus peur? C'est de laisser Anna et les enfants. Juste l'idée de ne plus les revoir m'angoisse. Même si j'ai de très bonnes assurances qui les aideraient à vivre à l'aise financièrement, l'idée qu'Anna et Sandra soient seules me fait peur. Pour David, je me sens bien. Je sais qu'il est capable de gérer sa vie sans moi. De plus, j'ai peur de ce qui se passera pour moi lorsque je serai mort. Je ne suis toujours pas convaincue du fait que la vie continue après la mort. Tout ça est très nouveau pour moi. Anna a raison de dire que nous ne parlons pas assez de ce sujet. Finalement, je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Tout ce que je sais, c'est que je l'accepterais très difficilement si on m'annonçait une telle nouvelle. Tu peux être sûre que je ferais tout en mon pouvoir pour ne pas mourir, quitte à dépenser toutes mes économies pour trouver le médecin qui pourrait me guérir. Ce que j'entends, Anna, c'est que tu as surtout peur pour ta fille, ce qui est normal pour toutes les mamans. Et toi, Mario, tu sembles avoir la même peur. Tu t'inquiètes pour ce que tu aimes. Quand vous réussirez à appliquer la loi de la responsabilité dans votre vie, des peurs de ce genre ne vous habiteront plus. Il vous faut juste du temps pour que ce soit naturel pour vous de ne plus vous sentir responsable pour les autres. Vous avez raison de dire qu'il est très important que les gens prennent plus de temps pour exprimer ce qu'ils éprouvent au sujet de la mort. Ce serait tellement plus facile lorsqu'un décès imprévu arriverait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'il est impossible que la vie s'arrête au moment où notre corps physique meurt. Vous avez sûrement appris, vous aussi, que l'âme est immortelle. Cela signifie qu'au moment de la mort, notre âme quitte ce corps pour retourner dans le monde de l'âme et faire le point sur ce qu'elle vient d'expérimenter dans cette vie. Elle se prépare ainsi à vivre d'autres vies en s'appuyant sur ce qu'elle a appris dans la vie précédente, ce qu'elle apprend avec ses guides dans le monde de l'âme, et ainsi la vie continue. Tu parlais d'injustice un peu plus tôt, Mario. Moi aussi, j'aime bien que la vie soit juste, et le fait que la vie s'arrête après la mort du corps physique serait la plus grande injustice sur la terre, selon moi. J'aime bien l'idée qu'il n'existe que la justice divine et le fait que notre âme continue à vivre avec des centaines et peut-être des milliers de corps différents jusqu'à ce qu'elle parvienne à vivre dans l'amour inconditionnel sur terre. Je trouve ça très rassurant et juste. Ça nous motive pour nous prendre en main le plus tôt possible et ainsi éviter de revenir bien des fois. « Tu ne trouves pas cela injuste ?» dit Mario. « Que quelqu'un meure jeune, comme mon neveu par exemple, ou un père ou une mère de famille qui ont des enfants en bas âge? Pourquoi y a-t-il des gens qui ne demandent qu'à mourir et qui ne meurent pas, et d'autres qui décèdent très jeunes sans le vouloir? Je te comprends, Mario. Je sais que ça semble vraiment injuste. Mais quand nous parlons d'injustice, nous nous limitons à la vision matérielle des choses. Quand nous optons pour une vision spirituelle, nous avons une vue beaucoup plus large, comme si on regardait une route d'en haut. On peut voir d'où elle vient et où elle va, s'il y a des obstacles sur cette route, etc. Quand une personne meurt trop jeune, ou trop soudainement selon notre point de vue, il faut se rappeler que nous ne connaissons pas le plan de vie de cette âme. Elle avait fini de faire ce qu'elle avait à faire dans ce corps et cet environnement, et elle est retournée dans le monde de l'âme pour continuer son chemin de vie dans un autre contexte. Cette âme a peut-être décidé de mettre un terme à cette vie-ci, même si son plan de vie n'était pas complété, en se disant qu'elle le compléterait dans une autre vie, quand elle serait plus apte à y faire face. C'est comme si un étudiant à l'université décidait de prendre une année sabbatique avant de terminer ses études. Sa décision lui appartient et ça ne concerne personne d'autre que lui, car il sera le seul à assumer les conséquences de sa décision. Il en est ainsi des gens qui meurent, même si leur décision est la plupart du temps inconsciente. Voilà une merveilleuse occasion d'apprendre à accepter une situation, même si on ne la comprend pas et même si nous ne sommes pas d'accord. C'est le seul moyen pour arriver à vivre la mort de ce que nous aimons, ainsi que la nôtre, dans la paix et le calme. Est-ce que tu te sens mieux, Mario, à l'idée qu'en réalité tu ne meurs jamais, que la vie continue? Vu de cette façon, il est vrai que ça me semble plus juste. J'ai même pensé, pendant que je t'écoutais, que ça me donnait encore plus envie de me prendre en main, sachant que ce ne sera pas seulement pour cette vie-ci, mais pour les autres à venir. En effet, tu as raison, Mario. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi, dans cette vie-ci et pour toutes les vies à venir. Ah, ce que j'aurais aimé savoir tout ça bien avant, ajoute Mario. Pourquoi n'apprenons-nous pas à l'école toutes ces notions que tu nous enseignes? Anna m'a posé la même question lors d'une visite précédente. Je suis d'accord avec l'idée que ce sera merveilleux quand les enfants apprendront toutes ces notions spirituelles dès leur jeune âge. Mais comme je l'ai déjà mentionné à Anna, les professeurs ne sont pas formés pour donner cet enseignement. Ça ne fait pas partie de leur tâche, à l'exception des enseignants spécialisés dans cette matière. Il y a par contre de plus en plus de professeurs qui passent de beaux messages spirituels aux élèves dès qu'ils le peuvent. C'est un peu plus à ce que les parents font, car ce sont les parents ou les grands-parents qui doivent enseigner ces notions aux enfants. Pouvez-vous imaginer quand cela se passera, combien d'émotions, de peurs et de culpabilité seront évitées? Mais les parents ne pourront enseigner véritablement ces notions à leurs enfants qu'au moment où ils les appliqueront dans leur propre vie. S'ils les enseignent sans les mettre en pratique, les enfants ne pourront y adhérer. L'exemple est le meilleur professeur. Mario et Anna me regardent en hochant la tête en signe d'approbation. Puis ils se regardent et se sourient. Mario prend la main d'Anna et, en la serrant bien fort, me dit « Ah, que ça fait du bien de se parler ainsi et de comprendre pourquoi il nous arrive toutes sortes d'expériences dans notre vie. Pourquoi est-ce si facile avec toi, Lise ? N'oublie pas que ça fait 25 ans que je mets en pratique ce travail d'introspection. Depuis le temps que nous travaillons ensemble, commencez-vous à comprendre la méthode que j'utilise ? Une chose est certaine, me répond rapidement Mario. Nous avons remarqué, et nous en avons parlé à quelques reprises, que tu utilises deux techniques à chacune de nos rencontres. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire par méthode. Voilà la première. C'est que tu as le don de nous ramener au problème quand nous dévions sur autre chose. Tu ne nous laisses pas nous éparpiller dans tous les sens. La deuxième chose que nous avons remarquée, ce sont toutes les questions que tu nous poses. C'est grâce à ça si aujourd'hui nous sommes arrivés avec des problèmes concernant notre famille et que, tout doucement, Nous avons découvert des peurs et des croyances qui nous appartiennent. Bravo, vous avez un bon sens de l'observation. Vous avez repéré l'aspect le plus important de ma méthode. Restez avec le problème initial et posez le plus de questions possibles. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que vous êtes venu me voir, grâce aux questions posées, vous avez fini par trouver quel était le vrai problème? Au tout début, vous ne parliez pas du vrai problème, mais bien d'une situation désagréable que vous viviez. Prenons aujourd'hui par exemple Mario. Tu croyais que ton problème était Dieu qui t'éprouvait par le biais de ton neveu qui s'est suicidé. Ensuite, tu te sentais impuissant à aider ta sœur et ton beau-frère, puis tu te sentais mal à l'idée que ta vie aille de mieux en mieux alors que la leur empirait. Tu as finalement découvert que ton vrai problème est la peur d'être sans cœur à cause de ton manque de compréhension de la loi de responsabilité. Tu te croyais responsable d'arranger la vie de ta sœur et de ton beau-frère, d'amoindrir leur douleur, ce que personne ne peut faire. Et moi, dans Chérie Rana, au début je croyais que mon problème était l'accident de papa et le fait de le voir vieillir aussi vite. Ensuite, j'ai découvert que moi aussi j'ai peur de la vieillesse et de ne pas être bien avec le fait que Mario vieillisse beaucoup plus vite que moi. Waouh! Je vais dire comme toi, quelle différence ça fait quand on se pose les bonnes questions. Ça permet d'aller vraiment au fond des choses. Je suis contente que vous voyiez l'utilité de toutes ces questions. C'est justement parce que nous n'avons pas identifié le problème véritable que rien ne se règle dans la vie et que nous revivons sans cesse les mêmes situations. Ce n'est pas la situation qui peut nous aider à trouver la solution. C'est seulement quand nous avons trouvé le vrai problème dans une situation donnée que nous pouvons le régler. Poser des questions est une bonne habitude, tout aussi importante au quotidien que dans une situation spécifique de résolution de problèmes. Vous auriez intérêt à l'utiliser quotidiennement, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Si vous saviez la différence que ça fait dans une relation, lorsque les personnes concernées savent écouter, il ne peut y avoir une bonne communication sans une bonne écoute. Quand une personne veut, tout de suite, trouver une solution au problème de l'autre, elle n'écoute pas cette dernière. Elle n'écoute que son ego qui croit avoir la solution toute faite pour l'autre. Cette mauvaise habitude est excellente pour bien nourrir l'ego. Avez-vous remarqué à quel point les personnes qui croient avoir la réponse à tout et la solution à tous les problèmes ont un gros ego? Ça peut devenir désagréable à un point tel que plus personne n'a envie de leur adresser la parole. Une bonne communication est un outil formidable pour arriver à l'amour véritable rapidement. Elle aide à avoir d'excellentes relations. Revenons au début de cette entrevue. Pouvez-vous imaginer si, après avoir entendu ce que tu vivais avec ta sœur, Mario, et toi, Anna, avec ton père, j'avais tout de suite commencé à vous dire quoi faire et quoi leur dire plutôt qu'aller dans la direction que j'ai prise. Qui aurait-il eu de différent par rapport à maintenant? Me répond Anna. Je sais que je ne me sentirais pas aussi bien que maintenant. Je ne peux pas trop te dire pourquoi, mais je suis sûre que je ne sentirais pas cette paix qui m'habite. Je partirais avec une directive à suivre et j'aurais peur de ne pas y arriver. Mario, est-ce ainsi pour toi? Je suis d'accord avec toi, Anna. Ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est que je serais partie d'ici en continuant à vouloir aider ce que j'aime et à me sentir mal à chaque fois qu'il ne serait pas heureux. Au moins maintenant, je sais que je ne suis pas obligée de faire quelque chose pour ma sœur, que je dois seulement prendre conscience que tout ça vient d'une croyance et qu'éventuellement, j'arriverai à ne plus y croire. Je suis heureux de savoir que toutes ces situations désagréables ont un bon côté. Elles nous aident à découvrir que nous ne nous aimons pas assez. Tout ce que nous avons à faire dans ce bas monde, c'est nous aimer, et nous verrons les gens et les événements extérieurs sans lunettes colorées. J'ai bien apprécié cet exemple, Lise. Quand je vais vivre une émotion, je vais me souvenir d'enlever mes lunettes. Merci beaucoup pour votre beau témoignage tous les deux. Maintenant, revenons aux questions que je pose. Je vous répète que savoir poser des questions est le secret d'une bonne communication. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui ait eu la chance d'apprendre ce secret en bas âge. On nous a même appris le contraire, à arrêter de poser autant de questions. Nous avons plutôt appris à répondre à tout ce que nous entendons, à donner notre opinion ou des conseils sans avoir vérifié si c'est ce que l'autre attend de nous. Anna, prenons l'exemple de ton père que tu veux aider. Je sais que tu as plein de bons conseils pour lui. Profite donc de cette occasion pour lui donner ses conseils sous forme de questions, suggestives si nécessaire. Par exemple, au lieu de lui dire qu'il n'est pas obligé de s'avouer qu'il prend sa retraite et qu'il se prépare plutôt à changer d'activité, tu pourrais lui dire « Tu sais, papa, il est vrai que tu es à un âge où beaucoup prennent leur retraite. Comment te sens-tu à l'idée de te dire que tu es rendu à un moment de ta vie où il est temps de changer d'activité plutôt que de te dire que tu es obligé de prendre ta retraite? Est-ce que tu vois la différence ?» Ensuite, quelle que soit sa réponse, qu'il soit d'accord ou non avec ce que tu viens de dire, pose-lui une autre question. Je t'assure que c'est une façon de communiquer qui est très respectueuse de l'autre. Je vous suggère de vous exercer ensemble et de le faire avec Sandra au moins une fois par jour, puis de partager à la fin de la journée comment vous vous êtes senti en vous posant des questions de la sorte. J'ai un peu de difficulté avec ça, Lise, car quand maman me pose plein de questions, j'ai l'impression qu'elle veut tout savoir de moi. Je la trouve même très indiscrète parfois. Ce que je mange, où je vais, ce qui se passe dans mon couple, ça ne la regarde pas. Elle veut même savoir si je fais des économies pour mes vieux jours. Tu es sûre que poser des questions est toujours une bonne idée? Tu as raison, Anna. Il faut savoir faire la différence entre les questions motivées par un désir de contrôle et la peur, et les questions motivées par la responsabilité et l'acceptation. Lorsqu'il y a du contrôle, on sent dans les questions de l'autre que celui-ci a des attentes et qu'il n'est pas prêt à accepter n'importe quelle réponse. C'est pour ça que ce genre de questions dérange et même énerve les autres. Par contre, si tu es dans l'acceptation avec ton père, il sentira que tu es bien, quelles que soient les réponses qu'il te donnera, et que ton seul intérêt est de l'aider à trouver ses propres réponses. La plus grande difficulté dans la communication est de rester neutre quand une autre personne parle de ses problèmes. Ce qui est le plus surprenant, c'est le fait qu'il est très rare qu'une personne demande de l'aide véritable quand elle parle de ses problèmes et que, malgré cela, la première chose que répond son interlocuteur, c'est de donner des conseils ou son avis. « Oui, je sais ce que tu veux dire », interrompt Mario. « Si j'ai le malheur de dire à Anna que je suis fatiguée, elle rétorque que je n'ai que me reposer ou qu'elle est encore bien plus fatiguée que moi, qu'elle a eu une très grosse journée. Dès qu'elle me répond ainsi, je n'ai qu'une envie, c'est de sortir de la pièce et de ne plus rien dire. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Ça me contrarie parce que je ne lui ai pas demandé de faire des commentaires. Alors que devrait dire Anna si ça se reproduit ? » Je vais te laisser répondre, Anna. Comme je viens de dire qu'il vaut toujours mieux revenir avec une question, as-tu une idée de quelle question serait appropriée dans ce cas ? Est-ce que je pourrais lui demander s'il veut se reposer ou s'il croit qu'il est moins fatigué que moi ? Mario et moi pouffons de rire en même temps. Crois-tu vraiment que tu te sentirais mieux avec ça, Mario ? Non ? Pourquoi pas ? En réalité, elle me dit la même chose. Je ne comprendrais même pas pourquoi elle me pose de telles questions. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je sais que je ne me sentirais pas mieux. Est-ce qu'il est possible que tu aies senti qu'elle ne se souciait pas vraiment que tu trouves des réponses pour toi, mais qu'elle était plutôt en train de passer ses propres messages ? De toute façon, quand nos questions ne sont pas basées sur l'acceptation de l'autre, ce dernier nous le fait sentir. Il réagit à nos questions. C'est un bon moyen pour réaliser que nous devons poser des questions différentes, surtout des questions qui sont basées sur l'autre plutôt que sur nous-mêmes. Comment te sentirais-tu, Mario, si Anna te disait « Dis-moi, Mario, Est-ce que tu me parles de ta fatigue parce que tu veux me parler de ce qui t'a fatigué aujourd'hui, ou dis-tu ça seulement pour me faire savoir que tu es fatigué? Ah oui, là, je me sentirais beaucoup mieux. Il est vrai que parfois, lorsque je parle, c'est comme si je pensais tout haut. Je ne cherche surtout pas son opinion ou une réponse. Puis d'autres fois, oui, ça me ferait du bien de parler de ce qui me tracasse. Ouf, que ça a l'air simple ici dans ton bureau. Y a-t-il vraiment des gens qui arrivent toujours à bien communiquer de cette façon? Je peux te dire que ça nécessite beaucoup de pratique. Ça fait au moins 15 ans que j'enseigne ce type de communication, et moi-même, je n'y arrive pas toujours. Parfois, l'ego est si rapide qu'il prend le dessus, et je me rends compte après coup que j'ai sauté aux conclusions avec quelqu'un en ayant oublié de lui poser des questions. Cette difficulté arrive à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on est capable de le mettre en pratique tout le temps. Prenez un professeur de ski, par exemple. Croyez-vous qu'il ne tombe jamais en skiant? Il tombe, mais au moins, il sait pourquoi il est tombé et comment se relever. Ce sera ainsi pour vous deux. Vous vous apercevrez que vous avez oublié de poser des questions et vous saurez y revenir si nécessaire. Le plus important est de vous donner le droit de ne pas être capable d'appliquer tout ce que vous apprenez à chaque instant dans votre vie. En vous acceptant, vous verrez que ça arrivera de moins en moins souvent et vous ne vivrez plus d'émotions, culpabilité ou colère quand ça se produira. Vous pouvez même réussir à en rire quand vous vous rendrez compte que c'est votre ego qui a pris le dessus.